comme chaque mercredi à 17h30, vous avez rendez-vous avec le magazine de Lille1, Lille1 Info, pour une thématique particulière. Aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Lefranc. Bonjour Monsieur Lefranc.
Bonjour.
Donc on va parler de quoi aujourd'hui?
Eh bien, on va parler alors de physique pour la biologie ou comment, en étant physicien, on peut se rendre compte à un moment donné qu'il y a des problèmes extrêmement intéressants en biologie et où en fait les capacités qu'on a développées en tant que physicien se montrent utiles.
D'accord. Donc, on va dire que vous êtes professeur des universités, que vous êtes chercheur au CNRS, vous l'avez été, hein? Et donc, ce rapport entre sciences et biologie, entre la technique et la matière vivante, on va dire, hein? Ça vous intéresse?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose évidemment qui paraît très lointain quand on est un peu cantonné dans sa discipline et qu'on s'intéresse aux objets traditionnels de la physique. Et puis, bon, des fois, il arrive qu'on fasse des rencontres, qu'on se retrouve dans des séminaires, qu'on voit certains problèmes exposés et qu'on se rend compte tout d'un coup que, eh bien, les méthodes qu'on a utilisées pour étudier les objets traditionnels de la physique, eh bien, peuvent également être utiles pour des questions qui se posent en biologie.
Donc, vos travaux se situent dans le cadre, on va peut-être expliciter, hein, du FLAM.
Oui, donc alors j'appartiens pour ce qui est donc au laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules, donc dont l'acronyme est le FLAM. Donc c'est un des plus gros laboratoires de physique de l'Université de Lille 1, donc il y a pas mal de thèmes de recherche et qui se caractérise, on va dire, par le fait que la plupart des recherches sont aux interfaces, en interaction avec d'autres disciplines. Et en fait, depuis quelques années, s'est développée une composante à l'interface physique-biologie. Alors donc je suis membre du FLAM, mais également en tant qu'équipe projet de l'Institut de recherche interdisciplinaire, donc qui est un nouveau bâtiment, donc c'est quelque chose qui s'est développé depuis bien 7-8 ans maintenant, mais en fait le bâtiment est arrivé fin 2008. Et en fait c'est un lieu où doivent se rencontrer des biologistes, des physiciens, des mathématiciens, pour collaborer autour de problèmes liés à la biologie et en particulier à ce qu'on appelle les réseaux de régulation génétique.
Donc, quand on parle de biologie, bon, en gros, c'est tout ce qui est vivant. Est-ce que l'homme a une place tout à fait particulière, voire privilégiée dans vos recherches?
Pas forcément directement, puisque évidemment, le propre de toute recherche scientifique, je dirais, c'est d'isoler un certain système ou une certaine partie qu'on va pouvoir comprendre et qu'on va pouvoir, donc l'homme, on va dire, dans sa totalité, bon, des fois est éloigné, mais cela étant dit, on en vient étudier effectivement des choses qui ont, enfin, qu'on peut ressentir dans la vie de tous les jours, dans notre existence. Donc en particulier, un des thèmes auxquels je m'intéresse, c'est celui des horloges biologiques, en particulier de l'horloge circadienne. Donc l'horloge circadienne, c'est une horloge interne que nous avons tous dans nos cellules et qui oscille environ sur 24 heures. Et en fait, c'est cette horloge qui nous dit à peu près à quel moment de la journée nous sommes. Et elle est extrêmement importante puisque, par exemple, c'est elle qui fait que notre température corporelle, eh bien, commence à remonter vers 4 heures du matin pour permettre un réveil facile vers 6-7 heures. Et c'est également cette horloge-là qui fait que si on va aux États-Unis et qu'on traverse l'Atlantique et que donc on subit un décalage horaire, eh bien, on se retrouve déphasé avec le cycle solaire.
Est-ce que l'heure d'hiver, ça va changer quelque chose?
Bon, oui et non. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui a été étudié parce que on va dire que, alors, en général, ça ne change rien pour les gens qui vivent plutôt à la campagne et qui ont donc un rythme d'activité, comment dire, piloté par la lumière du jour. Et donc dans ce cas-là, ben, la lumière du jour, elle, ne subit pas de décalage. Par contre, pour nous, eh bien, notre horloge circadienne, elle se cale sur le cycle d'éclairement jour-nuit, mais elle se cale aussi sur nos repas, sur notre activité sociale, et celle-là se trouve décalée. Et effectivement, on s'aperçoit que aux transitions, enfin au changement, de passage d'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement, eh bien, il y a un certain temps d'adaptation pour cette horloge.
Alors, pour beaucoup de gens, la journée est rythmée par des rendez-vous. Bon, il y a des gens qui regardent la télé ou qui écoutent la radio. On donne parfois des informations, on donne l'heure. Ce temps social est très différent du temps, j'allais dire, subjectif, personnel, individuel.
Oui, alors là, c'est une. Oui et non, je dirais que... Oui, c'est une question difficile. je dirais que l'un conditionne l'autre. Enfin, on peut voir ça comme peut-être deux horloges différentes, mais qui forcément interagissent. Et effectivement, c'est vrai que le rythme qui est imposé d'une certaine manière doit se ressentir sur la dynamique interne et propre que nous avons à l'intérieur de nous.
Est-ce que la façon de vivre actuelle ou les conditions, par exemple, d'emploi, de travail, etc., la pression, on va dire, de l'activité de la personne en tant que travailleur, par exemple, ça peut se faire au détriment de sa santé? Est-ce que ces rythmes biologiques sont suffisamment respectés, pris en compte, valorisés?
Alors, bon, ce qui est vrai, c'est que là, moi, ce sont des questions que je, personnellement, je domine mal parce que en réalité, je n'étudie pas l'horloge circadienne chez les humains, mais chez une algue microscopique, en fait, qu'on utilise quelque part comme un modèle d'horloge circadienne plus simple et plus facile à comprendre. Par contre, ce que je sais par les lectures, c'est qu'un certain nombre de gens se posent des questions, effectivement, sur l'influence, en particulier du travail posté, c'est-à-dire le fait d'avoir des rythmes jour-nuit qui se décalent à intervalles de temps réguliers. Et là, il y a effectivement des études qui semblent montrer, enfin, qui semblent suggérer en tout cas, que cela provoque certains dérèglements physiologiques. Parce que, quelque part, cette horloge circadienne a été mise au point pour orchestrer notre physiologie et avoir différents types d'activités tout au long de la journée et de la nuit. Et c'est vrai que, par exemple, ce qu'on sait, c'est que l'hormone de croissance est beaucoup plus présente et concentrée la nuit. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir du repos la nuit, parce que notre horloge, depuis des millions d'années, a été construite pour orchestrer les choses de cette manière-là.
Alors, c'est vrai que ça peut dépendre d'une espèce à l'autre, hein, on va dire, parce qu'il y a des animaux diurnes,
tout à fait,
qui sont nocturnes. Donc chacun s'inscrit dans une durée très longue, une forme d'apprentissage du temps.
Voilà, tout à fait, puisque en fait, tous les êtres vivants actuellement, humains y compris, eh bien, sont le résultat d'une longue évolution qui s'est déroulée sur des millions d'années. Et on va dire, suivant leurs conditions de vie, effectivement, l'horloge se comporte différemment. Selon, par exemple, que ce sont des animaux diurnes ou nocturnes. Par exemple, on sait que lorsque, justement, on soumet ces différents animaux à des flashs de lumière juste après la tombée de la nuit ou juste avant le lever du jour, eh bien, le résultat est différent suivant qu'on a un animal nocturne ou diurne. Parce qu'effectivement, il est sans doute plus important de repérer précisément le début de l'activité, c'est-à-dire le matin pour nous, le début de la nuit pour d'autres, que la fin de la période d'activité.
Alors, souvent, ces mécanismes se sont mis en place après de longs moments d'adaptation à des circonstances, à des conditions de vie.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est vrai que pour l'homme, par exemple, parfois, on le met d'un espace à l'autre, on le met dans des circonstances, des conditions qui peuvent être très différentes d'une année à l'autre. À l'échelon d'une espèce animale, c'est très différent.
Oui, je pense aussi ce qui se passe, c'est que pour l'être humain, les échelles de temps et les changements de notre mode de vie se font sur des échelles beaucoup plus rapides que se fait l'évolution. Donc effectivement, a-t-il le temps de s'adapter ou pas
Quels sont les animaux ou les espèces qui vous ont semblé les plus curieuses, les plus atypiques? Est-ce que vous avez des idées d'espèces qui ont
non, ça c'est vrai
qui dépassent la journée, par exemple, ou en termes de temps, est-ce que ça existe?
Non. Après, c'est aussi faute de connaissances personnelles, parce que c'est vrai que moi, je me suis spécialisé plutôt dans l'étude de l'horloge circadienne d'une certaine algue, et en fait, pas tellement dans ses comportements ou dans son mode de vie, mais pour disséquer les rouages moléculaires de cette horloge.
Donc, de quelle algue vous parlez de façon précise?
Alors, c'est une algue microscopique. Alors, son nom savant, c'est Ostreococcus tori. Elle est particulière parce que, en fait, on pense que c'est le plus petit organisme eucaryote connu. Alors, eucaryote, donc c'est un mot un peu barbare. Cela veut dire, en fait, une cellule qui où le matériel génétique, donc l'ADN qui porte les gènes, est séparé du reste de la cellule et est contenu dans un noyau. Donc en fait, c'est ce qui correspond à tous les organismes évolués, dont l'homme. Mais donc cette algue, c'est une cellule microscopique, donc elle est unicellulaire, c'est une cellule qui fait un micron de diamètre, donc un millionième de mètre, mais elle a déjà en partie dans son organisation cellulaire les propriétés communes à tous les organismes supérieurs.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une, j'allais dire, un être vivant rustique ?
D'une certaine manière, oui, parce que son organisation cellulaire est extrêmement dépouillée. Donc, par exemple, dans une cellule, on rencontre ce qu'on appelle les mitochondries, donc qui servent au métabolisme et à fournir l'énergie à la cellule. Chez la plupart des cellules, on en rencontre plusieurs. Et bien, chez Ostreococcus tori, il y a une seule mitochondrie, un seul corps de Golgi, donc qui est une autre partie de la cellule. En fait, tout se passe comme si on avait affaire à quelque chose d'extrêmement dépouillé, de réduit au strict minimum.
Alors justement, dans ces espèces un peu rustiques, est-ce qu'on peut dire que c'est, en quelque sorte, on peut y retrouver le plus petit dénominateur commun à l'espèce vivante ?
En quelque sorte. Alors, rustique, une question qui est intéressante, et c'est vrai que là, nous, enfin, des fois, en tant que physicien, on aborde ces questions avec beaucoup de naïveté et on apprend beaucoup de la discussion avec nos collègues biologistes. La question, c'est est-ce qu'elle est rustique parce qu'elle est restée à un état ancestral ou au contraire, est-ce qu'elle a convergé vers quelque chose de très simple parce que c'était avantageux pour elle ?
D'accord.
Mais effectivement, il se trouve que cette algue, en fait, c'est un organisme photosynthétique donc qui transforme la lumière du soleil en énergie. Donc c'est pour ça qu'elle est, elle est verte, hein, donc comme, et donc elle partage toute cette machinerie avec tous les végétaux, tout ce qu'on appelle la lignée verte sur Terre, les plantes qui nous entourent, les arbres. Et donc effectivement, il y a pas mal. Enfin, c'est un modèle. Alors, elle a été découverte uniquement en 1994, donc 16 ans, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle de la science et pour la biologie, c'est extrêmement récent puisque son génome n'a été séquencé qu'en 2005. Et effectivement, elle émerge actuellement comme un modèle extrêmement prometteur pour essayer de comprendre dans un cadre plus simple toute cette physiologie des végétaux supérieurs. Et avec des problèmes extrêmement intéressants parce que, en fait, toute cette masse d'algues, ça joue un rôle, et donc toute cette biomasse photosynthétique qui se trouve dans les océans, ça joue un rôle extrêmement important pour les échanges de gaz carbonique toute cette biomasse joue un rôle important dans le climat.
Bien sûr. Donc quand on parle de changement climatique, je ne vais pas entrer dans la polémique aujourd'hui, hein, de modification climatique de la Terre, est-ce que ces algues ou ces organismes, d'une manière générale, ont un rôle régulateur sur la Terre ?
Difficile de le dire. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'elles font partie d'un équilibre qui a existé jusqu'à récemment. Mm-hmm. Donc effectivement, elles peuvent faire partie de boucles de rétroaction, puisque si quelque chose va modifier, par exemple, la quantité totale de ces algues, par exemple, ça veut dire des changements suite à ça, par exemple, dans l'oxygène produit ou ce genre de choses. Donc,
Alors, comme c'est une espèce qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, on n'a peut-être pas beaucoup de références sur combien il y en avait à une certaine époque et combien il en reste.
Voilà, tout à fait. Et je dirais que d'une part, il y a eu tout un ensemble de travaux pour comprendre, on va dire, les mécanismes moléculaires de cette algue. Donc là, vraiment, la biologie cellulaire, l'identification des différents gènes de cette algue. Et après, la question que vous posez, effectivement, après, c'est les modes de vie, l'écologie de cette algue. Qui là sont encore plus mal connus, puisque évidemment l'étude génétique, l'étude de biologie cellulaire, elle peut être faite au laboratoire. Par contre, l'étude du mode de vie, de l'écologie de l'algue, ça se fait sur le terrain.
Est-ce que cette algue, il y a des régions du monde où on la trouve et d'autres où elle est absente ?
Eh bien là, j'avoue que je n'en sais pas assez pour vous le dire. Je pense qu'apparemment, elle est assez largement répandue. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, elle a été découverte dans juste à côté de Sète. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'elle est présente assez largement sur la surface de la Terre.
Mm-hmm. Est-ce qu'en laboratoire, vous pouvez créer des conditions différentes pour voir où elle s'adapte et où elle ne s'adapte s'adaptent pas, quelles sont les conditions de vie,
ça pourrait être envisagé. Alors donc les collègues biologistes à qui je travaille, parce qu'en fait ce que j'aurais dû dire aussi, c'est qu'évidemment les études que je fais sont faites en collaboration avec des biologistes, donc eux font des mesures expérimentales, mènent des expériences et me donnent des signaux, des séries temporelles que j'analyse. Donc c'est une question qui n'a pas été encore posée pour cette algue, mais par contre il y a des expériences d'évolution extrêmement intéressantes où effectivement des scientifiques donc maintiennent des cultures de bactéries par exemple sur des durées très longues, 20 ans, et en les plaçant dans des conditions différentes, essaient de voir si l'évolution part dans un sens ou dans un autre. Et en fait, tout en sachant que bon, le cycle de vie d'une bactérie, eh bien, on peut avoir division cellulaire peut-être toutes les 20 minutes ou au moins une fois par heure. Et donc 20 ans, ça représente une durée extrêmement longue à cette échelle. Donc, voilà. Donc effectivement, c'est des choses qui se font sur d'autres organismes.
Est-ce que vos travaux peuvent favoriser la médecine, les thérapies d'une manière générale ?
Bah, sans doute pas directement, parce que je dirais que moi, mon travail, c'est d'aider les biologistes à confirmer ou à infirmer leurs hypothèses. Plus précisément, leurs hypothèses, c'est de savoir quel est le réseau génétique qui gouverne cette horloge circadienne, à savoir quel est le réseau de protéines et de gènes en interaction qui va créer ces oscillations biochimiques qui sont, quelque sorte, qui constituent les aiguilles de l'horloge. Effectivement, le couplage de l'horloge circadienne avec le métabolisme, par exemple, à savoir comment les échanges énergétiques, comment la consommation énergétique est modifiée en fonction des phases de l'horloge, a certainement des interactions très fortes avec la médecine.
Alors, ces êtres vivants dont vous parlez, ils sont petits, mais ils sont nombreux. Ça fait finalement cette biomasse peut-être dont on peut parler.
Donc. Oui, sauf que là, j'avoue qu'une relative ignorance aussi, puisque m'étant, spécialisé beaucoup sur l'aspect moléculaire et dynamique de l'algue. Mais oui, effectivement, ça représente en quantité de matière vivante, ça représente quelque chose d'extrêmement important.
Alors, si on va au fond de cet être vivant, on retrouve l'ADN.
Oui, tout à fait.
C'est la plus petite partie de...
L'ADN, en fait, c'est ce qui porte les gènes. Et donc l'information génétique, donc ce qui fait que l'organisme est tel qu'il est. Et en fait, l'ADN, les gènes, c'est également on en parle souvent, c'est connu dans le grand public parce que quelque part, ce sont des gènes qui portent nos caractères visibles, couleur de cheveux, couleur de peau et d'autres choses. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces gènes, ce ne sont pas des objets statiques. Un gène, c'est quelque chose qui sert à quoi ? C'est quelque chose qui sert à synthétiser des protéines, sachant que les protéines, ce sont les briques de la vie. Nos cellules sont formées de protéines, la membrane... Les protéines servent à un grand nombre de choses, à construire l'architecture de la cellule, mais elles servent aussi à interagir avec d'autres protéines pour créer des signaux biologiques. Et... ces gènes, en fait, eh bien, ce ne sont pas des objets statiques, ils ont une activité, ça veut dire qu'ils produisent des protéines avec une fréquence qui dépend de l'instant, c'est-à-dire qui varie au cours du temps. Et ce dont on s'est rendu compte et qu'on a pu vraiment mettre en évidence de manière expérimentale depuis 10-20 ans maintenant, c'est qu'un grand nombre des fonctions cellulaires sont assurées par des réseaux de gènes et de protéines. Ces gènes et ces protéines interagissent et en fait, servent à traiter l'information biologique et servent à la cellule à prendre des décisions et à s'adapter à l'environnement. Par exemple, le cycle cellulaire, donc la série d'étapes biochimiques par lesquelles une cellule va passer pour arriver à dupliquer son matériel génétique, à se diviser en deux et qui est à la base de la vie, puisque le développement d'un être humain, par exemple, à partir d'une seule cellule jusqu'à un être comportant des milliards de cellules, ça passe par un grand nombre de divisions cellulaires. Les circuits électroniques, en quelque sorte, qui contrôlent tout ça, ce sont des gènes et des protéines qui interagissent. Et On s'est rendu compte aussi, grâce aux progrès expérimentaux extrêmement importants dans ce domaine, qui permettent de voir en temps réel, au microscope, l'activité de gènes, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de phénomènes dynamiques intéressants. Donc l'horloge circadienne, c'en est un, mais il y en a un certain nombre d'autres.
Est-ce qu'il y a de très grosses différences ou de ressemblances entre, j'allais dire, la structure génétique des végétaux, des animaux ou d'autres types de vivants ?
Non, je dirais qu'au niveau moléculaire, la molécule présente à peu près la même structure, la séquence est différente, mais alors après, la séquence, eh bien, les différences de séquence vont pouvoir engendrer des protéines différentes qui vont amener à voir toutes les différences qu'on voit entre les organismes. Cela étant dit, on repère plein de points communs entre des organismes différents, et ça, ben, c'est toute l'histoire de l'évolution, puisque deux organismes différents, à un moment donné, ont toujours eu un ancêtre commun, et certaines choses ont évolué et divergé, et d'autres se retrouvent.
Alors, le fait qu'on découvre, enfin, là, vous parliez de cette découverte il y a une dizaine d'années, enfin, quelques dizaines d'années, on va dire, on découvre régulièrement de nouvelles espèces vivantes.
Oh oui, tout à fait, oui, je crois. Même, je ne sais plus, je lisais justement un article récemment sur le fait que toutes les semaines ou tous les 2 ou 3 jours, on découvre une espèce nouvelle en Amazonie. Donc, justement, du fait que, comme c'est un territoire assez inexploré et vaste, il y a apparemment beaucoup de trésors qui restent à découvrir là-bas.
C'est étonnant parce qu'on imagine toujours que pour nous, les découvertes, par exemple, on découvre une nouvelle étoile ou une nouvelle galaxie, mais sur Terre, très près de nous, finalement, il y a encore plein de choses à découvrir.
Ah, tout à fait. Et effectivement, et qui des fois peuvent se révéler extrêmement importants, puisque par exemple, cette algue, en fait, elle est tout à fait intéressante dans le fait que, apparemment, il est beaucoup plus facile de construire des modèles mathématiques. Hein. Donc, mon travail, c'est. Par exemple, c'est de construire des modèles mathématiques, des circuits génétiques, des réseaux d'interaction qui forment l'horloge, par exemple. Et on a eu une grande surprise, c'est de voir que des modèles mathématiques extrêmement simples arrivaient à reproduire avec une précision incroyablement bonne les signaux expérimentaux que nos collègues biologistes nous avaient donnés. Et donc, on espère que cette algue, en fait, va nous permettre de comprendre beaucoup mieux le fonctionnement d'une horloge circadienne que d'autres systèmes plus complexes, tels que les mammifères ou les plantes, supérieures ou d'autres organismes plus compliqués. Et donc effectivement, eh bien, ce n'est possible d'étudier cette horloge réduite, cet organisme plus simplifié, que parce qu'on l'a découvert.
Est-ce que les outils récents, le laser ou autre chose, ces outils-là peuvent apporter un plus dans votre recherche ?
C'est absolument fondamental parce que justement une des techniques qui est énormément utilisée actuellement en biologie cellulaire pour pouvoir suivre l'activité de ces gènes en temps réel, eh bien, c'est la microscopie de fluorescence. Et en quelque sorte, alors, le principe, c'est que on transforme une petite partie du génome, enfin de la séquence d'ADN de l'organisme qu'on étudie, pour faire en sorte qu'une des protéines qui est produite par les gènes, en fait, comporte une partie fluorescente. C'est-à-dire que si elle est éclairée, elle va produire de la lumière. À partir de là, eh bien, c'est extrêmement facile de voir des changements au niveau de la quantité de protéines dans la cellule, en fonction de certains événements cellulaires ou en réponse à certains signaux, parce que, par exemple, si on voit la lumière de fluorescence. Alors, donc pour ça, on regarde la cellule au microscope et on l'éclaire avec un laser, donc une source de lumière émettant à une longueur d'onde bien précise, et suivant la quantité de protéines dans la cellule, eh bien, on va observer un signal en retour qui va être plus ou moins important, et ça donne lieu à des expériences extrêmement spectaculaires, puisque on peut voir, donc là, par exemple, une protéine extrêmement utilisée, c'est ce qu'on appelle la Green Fluorescent Protein, donc GFP, qui est verte, et donc à partir d'un moment, en réponse à un certain signal, on peut voir tout d'un coup une production importante d'une certaine protéine et donc voir la cellule se colorer en vert. Et par exemple, lorsque vous étudiez des oscillations cellulaires, enfin des oscillations, c'est-à-dire des montées rapides et des descentes ensuite rapides et donc qui cyclent, eh bien c'est extrêmement spectaculaire puisqu'en fait vous voyez cette fluorescence osciller avec une certaine période.
Voilà, donc on l'a bien compris, l'évolution scientifique, c'est à la fois voir de plus en plus loin mais aussi voir de plus en plus près.
Tout à fait.
Merci beaucoup, donc, Marc Lefranc, de nous avoir présenté ce sujet. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.